Donc je pense que le drone apporte le complément qui manquait à la composante aérienne, c'est la persistance. Les avions, hein, la puissance aérienne a énormément d'avantages, hein, mais c'est vrai que la chose qui pêchait jusque-là, c'était le fait de rester fugace et de ne pas être capable de rester sur plusieurs jours sur une même zone. Donc moi, en pilote de Mirage 1000D, je pouvais ravitailler, mais ravitailler ne me permettait pas de tenir 20 heures en vol. Aujourd'hui, avec le Reaper, on a cette permanence. On est capable de faire ce qu'on appelle des RIP, donc un avion qui va en remplacer un autre de manière un peu continue, pour avoir ce que les Américains appellent des orbites, qui permettent de tenir H24 sur une zone. Et ça, je pense que c'est la vraie révolution.
Bienvenue dans le podcast Défense Zone. Dans ce nouvel épisode de notre série sur l'opération Barkhane, nous partons à la rencontre du commandant Nicolas, chef de détachement Reaper de la base aérienne projetée de Niamey et ancien pilote de Mirage 2000D. Avec lui, nous allons parler du rôle des drones Reaper sur le conflit au Sahel et de ses spécificités par rapport aux avions de chasse stationnés à Niamey. Vous pouvez retrouver les autres épisodes exclusifs que nous avons réalisés pour vous au Sahel directement dans votre espace Premium sur défense-zone.com et en cliquant sur l'onglet Premium. Et n'oubliez pas que vous retrouverez notre dossier complet sur l'opération Barkhane ainsi que des images inédites dans le numéro 3 de notre magazine papier Défense Zone. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Donc nous sommes à Niamey, dans la base aérienne française, ici en mission sur le théâtre Barkhane, avec commandant Nicolas, chef de détachement est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, donc je suis le commandant Nicolas, je suis actuellement le chef du détachement Reaper donc de la base aérienne projetée de Niamey. Voilà, je suis arrivé fraîchement il y a 2 semaines, mais c'est une base que je connais bien, puisque j'y suis déjà venu 3 fois en tant que pilote de Reaper, et 3 fois également en tant que pilote de Mirage 2000D. Donc voilà, je retrouve un peu mes marques.
D'accord. Comment vous en êtes arrivé à ce poste ?
Donc j'ai eu un cursus de pilote de chasse. J'ai été affecté à la 3e escadre de chasse de Nancy. J'ai fait 8 ans là-bas en tant que pilote de chasse. J'ai eu l'occasion d'exercer le poste de commandant d'escadrille. Et à l'issue, pour partir dans une filière commandement, j'ai eu une opportunité de venir dans un escadron de Reaper. Et j'ai sauté sur cette occasion. Et j'ai pu devenir donc adjoint au chef des opérations de l'escadron de drone 133 Belfort en 2018. Et voilà, et depuis j'ai suivi ma formation de pilote à distance de Reaper jusqu'à arriver au poste de second de l'escadron de drone 233 Savoie.
En général, un pilote de drone, il doit forcément passer par la case pilote d'avion style Mirage Rafale.
Alors oui, tout à fait, nos pilotes à distance sont des pilotes. Donc ils ont une formation aéronautique. Alors ils peuvent être d'anciens pilotes de chasse, mais il y a également ce qu'on appelle des ab initio. Donc des jeunes qui, fraîchement incorporés dans l'armée, vont pouvoir faire une transformation de pilote d'avion sur des Grob 120, donc des petits avions hélices. Et une fois qu'ils auront validé cette formation, qui leur donne ce qu'on appelle un premier degré de pilote militaire, ils vont ensuite passer sur un cursus pilote à distance. Et une fois qu'ils seront brevetés pilote à distance de Reaper, ils auront un macaron de pilote, comme n'importe quel pilote de l'armée de l'air.
D'accord. Avant de parler de vos missions, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est un drone, comme par exemple le drone Reaper ?
Alors oui, alors drone est un terme générique qui finalement, si on regarde un peu dans la sémantique, ça reprend principalement la caractéristique technique de l'avion. C'est-à-dire que l'avion est piloté à distance, donc c'est un drone. Le problème, c'est que ce terme générique, en fait, n'est pas forcément le plus révélateur de notre capacité, en tout cas de notre capacité militaire. Et tout comme vous pourrez très bien avoir des avions à hélice ou des avions à réaction, à partir du moment où la mission est une mission de chasse, on dira des avions de chasse. Donc finalement, notre avion, oui, il fait partie de la catégorie des drones, mais il faut vraiment le voir comme un avion de surveillance, de reconnaissance et d'attaque. Et d'ailleurs, c'est le nom de notre escadre, la 33e SRA. Et éviter de trop se focaliser sur le fait que oui, cet avion n'est pas habité, mais il reste piloté à distance. Et ici, on essaie vraiment de se concentrer sur la mission parce qu'elle est beaucoup plus parlante que vraiment la caractéristique technique, que ce soit à hélice, avec 4 moteurs ou piloté à distance.
D'accord. C'est quoi les missions du drone Reaper aujourd'hui ?
Alors, les missions qui sont dévolues à la 33e SRA, elles sont vastes, donc notre mission principale reste l'ISR, donc le renseignement, mais on est également capable de faire des missions d'appui des troupes au sol, qu'on appelle le CAS, Close Air Support, des missions de coordination de frappes complexes aériennes, ce qu'on appelle le SCAR, Strike Coordination and Reconnaissance. On est aussi capable de faire du JAT, Joint Air Attack Team, de concert avec des hélicoptères de l'armée de terre, et également de la PR, Personnel Recovery, au cas où un pilote viendrait à s'éjecter en territoire ennemi. Donc tout ça recouvre un panel assez large, c'est ce qui demande d'ailleurs une formation exigeante et assez longue. Quelqu'un qui arrive d'un autre avion ou un jeune ab initio qui viendrait chez nous nécessiterait au moins un petit peu moins d'un an de formation avant d'être apte mission de guerre, donc c'est-à-dire le socle minimal pour être déployé en opération. Et après, au bout de quelques années, il pourrait prétendre à des missions un peu plus complexes, notamment de mission de SCAR ou de chef de mission, ce qui permet également d'être dans une formation continue tout au long de notre carrière à l'unité et au fil de notre expérience acquise au fur et à mesure de nos détachements qui sont relativement réguliers ici.
D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, en fonction de la mission, vous envoyez quelqu'un qui est apte à la résoudre?
Non. Non. Quand vous êtes en Reaper, en fait, notre force, en tout cas la force du modèle français, c'est d'être capable de passer sans anicroche d'une mission à une autre en temps réel. Vous êtes sur une mission de reconnaissance et d'un seul coup, vous détectez une forte concentration d'ennemis. Nous sommes armés, nous avons deux GBU-12, mais la masse ennemie est telle qu'on ne peut pas la traiter directement avec une GBU-12. Le Reaper est un avion discret, un avion encore une fois de reconnaissance et de surveillance. Donc on va pouvoir continuer à fixer cet ennemi, à le suivre, et en même temps rendre compte à l'état-major qui va être capable de réallouer les moyens de la composante aérienne terrestre ou maritime, potentiellement dans un conflit à venir, et va pouvoir nous dire « Ok, vous allez devoir gérer la frappe de X chasseurs, de X hélicoptères de combat, ou être en appui d'une compagnie de l'armée de terre avec ce qu'on appelle un JTAC, un contrôleur tactique avancé. Maintenant, le souhait de l'opératif est d'aller dans ce sens. Maintenant, c'est à vous, échelon tactique, d'arriver à coordonner tout ça pour que ça fonctionne. » Et donc finalement, peut-être en moins de 2 heures, on va passer d'un stade juste de surveillance à un stade d'engagement des feux relativement complexe. Et c'est pour cela qu'encore une fois, qu'il faut que nos équipages soient formés à un socle complet de toutes les missions pour pouvoir être en mesure de réagir très, très rapidement, même en cas d'éjection. On ne prépare pas une éjection. Donc quelqu'un qui s'éjecte sur un avion de chasse, vous n'allez pas pouvoir repartir le lendemain pour dire « Ok, on va essayer de trouver où il est ». Il faut tout de suite réagir immédiatement et avoir les bons réflexes, connaître les procédures. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la qualification apte mission de guerre signifie que nos personnels ont le socle minimal pour arriver à faire face à toutes les éventualités qu'on peut avoir dans un conflit.
La mission en l'air, elle peut durer jusqu'à combien de temps ?
Donc l'avion vole longtemps. Très longtemps, d'ailleurs, c'est l'acronyme drone MAL, hein, moyenne altitude, longue endurance. Donc on peut faire des missions de l'ordre de 18 heures. Vraiment, ça reste un ordre d'idée, parce qu'encore une fois, ça dépend de là où vous allez. Plus vous allez loin, moins vous volez longtemps. Et la force du Reaper, c'est qu'on peut changer d'équipage en vol, parce qu'on est au sol. Donc on fait des créneaux qui peuvent être de l'ordre de 2 heures, 4 heures, 5 heures. Voilà. L'idée, en fait, c'est que les équipages font ce qu'on appelle un RIP, c'est-à-dire qu'ils se remplacent, et on le fait de manière incrémentale pour que sur les 4, il y ait toujours quelqu'un qui puisse suivre ce qui se passe. En général, ça dure 5 minutes. Et donc, vous arrivez à découper comme ça un vol de 18 heures en 4 créneaux beaucoup plus petits et qui permettent de rester humainement faisable. Parce que rester, on va dire, alerte, rester vigilant pendant 18 heures d'affilée, ne serait-ce que physiologiquement, ça ne serait pas possible. Bon. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a toujours des gens qui sont frais, dispo et qui sont vraiment à 100% dans leur mission, même si l'avion, encore une fois, vole très longtemps.
Oui, on a pu voir ici que les personnes sont confrontées à plein d'écrans avec beaucoup d'informations en même temps, un peu comme n'importe quel pilote aussi.
Mais, exactement.
Mais le fait d'être sur Terre, ça doit être un peu déstabilisant, non ? Le fait de ressortir ensuite de ce conteneur et puis...
J'ai envie de dire que c'est un peu la particulier de la composante aérienne. Finalement, c'est un peu ce qu'on disait des premiers pilotes de chasse. On disait, regardez, en fait, eux, ils sont à l'abri du front, ils sont à l'écart. Et finalement, cette espèce de dissonance cognitive que vous pouvez avoir entre votre mission, vous êtes vraiment, même si physiquement on n'y est pas, on est vraiment psychologiquement dedans, en tout cas autant que je l'étais depuis 20 000 pieds sur mon Mirage 2000D. Et oui, quand vous ouvrez la porte, vous repassez dans le monde entre guillemets temps de paix. Mais ça, c'est quelque chose auquel, encore une fois, la plupart des pilotes de l'armée de l'air sont acclimatés. Et finalement, la différence n'est pas si grande. Il y a vraiment quelque chose, comme vous l'avez dit, mais ça fait partie de notre culture. Et pour ce qui est des sensations, c'est ce qu'on appelle du vol aux instruments. Donc finalement, quand vous êtes dans un avion dans les nuages, vous n'avez pas forcément beaucoup d'accélération et les informations visuelles et la proprioception ne sont pas forcément d'accord. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'on a un avion qui tourne et on ne le sent pas. Encore une fois, les pilotes sont formés à ça. Il ne faut pas faire confiance à ses sens. Il faut faire confiance à ses yeux et aux instruments. Et une fois qu'on a pris le coup, eh bien, le corps le comprend et on a vraiment la sensation d'être dans un avion, même si effectivement on n'a pas l'accélération, ni les turbulences, ni le bruit du moteur.
Ici, les pilotes sont sur la base de Niamey, donc au cœur de l'opération Barkhane. Donc au final, vous êtes quand même en opération comme tous les autres soldats de Barkhane, les militaires de Barkhane, à la différence des Américains qui, eux, pilotent leurs drones depuis chez eux. Et il y a un film comme ça, dont j'ai oublié le nom, où on voit le pilote sortir du conteneur pour récupérer ses enfants à l'école.
Je pense que vous voulez citer Good Kill, qui est le film, un film assez parlant sur le modèle américain. Oui, le modèle français est vraiment différent du modèle américain. Et on a le Reaper, la machine, le MQ-9 est une machine américaine, mais on n'a pas pris le modèle. L'escadron n'est pas né le jour où on a reçu le Reaper américain en 2014. Il date de bien avant. Donc ça, c'était à l'origine un escadron d'expérimentation avec du Hunter, puis on a eu du Harfang. Et l'escadron s'est fait une doctrine. L'escadron a pu développer des compétences et en fait on s'est rendu compte que le cockpit avant fonctionnait bien avec un cockpit arrière et on était déjà dans un modèle déployé, notamment en Afghanistan. Donc l'escadron est simplement resté sur ses acquis doctrinaux et l'équipement a été pris comme tel, un équipement. D'accord ? L'équipement ne fait pas la capacité militaire, encore une fois, en tant que tel. Donc aujourd'hui, nous continuons ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que nous sommes déployés avec les pilotes de chasse des détachements Mirage 2000D et Mirage 2000C. Nous travaillons également en concert avec les ALSR, donc les avions de surveillance et de reconnaissance, également avec le Transal Gabriel quand il est là, ou avec les différents acteurs de la BAP. Et ce qui nous permet d'être vraiment pendant le temps de notre détachement, à 100% capable de se coordonner, expert de notre terrain, parce que finalement nous ne volons qu'ici pour les missions dévolues à Barkhane. Donc nous sommes vraiment au moins aussi impliqués que si nous étions membres d'équipage d'un avion habité. Donc c'est vraiment une belle plus-value et c'est, je pense, ce qui fait vraiment l'efficacité de notre modèle.
C'est important sur le point psychologique, justement, de le fait d'être présent là physiquement.
Oui, bien sûr, évidemment car le groupe vit pour le groupe et que vous êtes sur le théâtre, vous êtes combattant, vous êtes en tenue de combattant parmi d'autres combattants. Et évidemment, ça permet que l'esprit puisse se sentir, encore une fois, dans cette bulle et dédié à 100% à sa mission. Si on avait à rentrer chez nous tous les soirs pour retrouver un peu le tracas de la vie quotidienne, et qu'on s'était retrouvé sur une mission, les missions peuvent très bien se passer comme elles peuvent mal se passer. Vous pouvez très bien suivre un convoi qui explose sur un IED et le traumatisme est réel parce que vous êtes avec le convoi, vous le suivez, vous êtes censé le protéger. Honnêtement, je n'imagine pas une seule seconde rentrer chez moi le soir en ayant vu quelque chose d'aussi traumatisant. Aujourd'hui, sur le théâtre, on peut en discuter avec nos camarades, prendre le temps d'en parler, prendre le temps d'en discuter avec les autorités, d'en discuter avec nos camarades des autres détachements. Et ça permet, entre guillemets, de mieux vivre le traumatisme. Même si ça restera un traumatisme, on le vivra mieux et on restera à 100% et on sera capable le lendemain de reprendre nos missions de manière efficace, cohérente. Et encore une fois, sur la base aérienne projetée, on a tout le soutien dont on aurait besoin dans ce genre de situation. Donc on est vraiment... Je pense que c'est un modèle qui est... Qui est efficace et qui n'est pas forcément celui des Américains pour d'autres raisons, mais qu'en tout cas nous pouvons mettre en place et jusqu'à présent en tout cas qui fait ses preuves.
Il y a des cas de post-traumatisme pour les pilotes de drones?
Alors, je ferai une généralité. Il y a des cas de post-traumatisme pour tous les combattants. Nous sommes des combattants. Donc, il est normal que nous ayons des cas de post-traumatisme, mais encore une fois, comme dans n'importe quelle unité qui est au contact.
Mais ces conditions de travail où on est face à un écran et on est en immersion, ça pourrait avoir tendance à augmenter ça ou justement préserver un peu?
Je vais être honnête avec vous, pas plus, pas moins. Vraiment, tous les gens vivent les choses différemment et encore une fois, vous voyez l'écran parce que vous n'êtes pas dans la mission et que vous rentrez dans la GCS et que vous voyez un écran. Nous, on ne voit pas l'écran. En fait, on ne voit pas l'écran parce qu'on est en contact avec les gens au sol, on est en contact avec les autorités, on comprend la situation et finalement, cet écran, c'est un stimuli qui nous permet de comprendre des choses parmi d'autres, j'insiste, parmi d'autres, et qui fait qu'en fait, on est dans la mission. On n'est pas ici à Niamey devant un écran, on est dans l'avion avec les gens qu'on regarde au sol, avec les objectifs qu'on regarde au sol. Donc, on est vraiment… cette distanciation, elle est perçue par les gens de l'extérieur, mais quand vous êtes acteur, vous ne le vivez pas du tout de la même manière. Donc je dirais qu'en fait, on le vit exactement, moi en tout cas, je le vis exactement de la même manière que lorsque j'étais pilote de Mirage 2000D.
Comment on fait pour… est-ce que vous avez un conseil de pilote pour quelqu'un qui nous écouterait et qui aimerait être plus concentré? Est-ce qu'il y a des conseils qui marchent dans le monde civil aussi, pour réussir à gérer une mission comme ça pendant plusieurs heures? Avoir un degré de concentration.
C'est très facile. Il suffit d'avoir un entraînement pendant un an prodigué par un 33e SRA. Non, plus sérieusement, c'est à la fois une blague et pas une blague. C'est-à-dire qu'il faut l'entraînement. Il faut l'entraînement. Si vous voulez être serein, si vous voulez être efficace, il faut que vos actions soient réflexes. Et pour que vos actions soient réflexes et que soient sûres, il faut du drill. Il faut l'avoir vu, il faut avoir expérimenté. Il faut que votre cerveau comprenne que ce n'est pas une situation nouvelle. Et que c'est quelque chose auquel vous avez déjà dû faire face en entraînement, en simulation, et qui vous permet de rester dans le cadre de ce que vous maîtrisez. Donc il n'y a pas de miracle, hélas, il n'y a pas de tips, c'est juste l'excellence. Voilà. L'excellence de l'entraînement amène à l'excellence en opération.
Le pilote, est-ce qu'il doit avoir une connaissance très précise de l'aéronef?
Alors oui. C'est une culture que l'on a en chasse, parce que, encore une fois, c'est la culture que je connais. Je pense que c'est une culture qu'ont tous les aviateurs. Oui, évidemment, c'est tout comme le cavalier, je pense, maîtrise sa monture. On doit absolument connaître les moindres coins de notre avion. En tout cas, on attache énormément d'importance à ce que les jeunes soient vraiment experts techniques de leur avion. Ce qui permet encore une fois, quand vous avez une panne, que vous avez au moindre souci en vol, de le comprendre. Les pannes ne sont pas toutes dans le manuel, mais si vous maîtrisez parfaitement la technique de votre avion, le fonctionnement de son moteur, de son système électrique, de ses commandes de vol, de son système de pétrole, de fuel, eh bien, vous aurez plus de chances, en déroulant une checklist, d'être amené à prendre des bonnes décisions si jamais ça sort légèrement du cadre. Que si évidemment vous ne comprenez absolument rien à votre avion et qu'en appliquant une checklist qui ne s'applique peut-être pas à la panne que vous avez, vous risquez de faire quelque chose de contre-productif. Donc tous les pilotes, je pense, et que ce soit en France ou dans les autres pays, appliquent cela et évidemment on l'applique comme n'importe quel membre d'équipage d'un avion habité, même si encore une fois, pour le coup, on n'habite pas dans notre avion.
Aujourd'hui, vous avez des mécaniciens qui travaillent sur le repair, des mécaniciens français. Vous ne passez plus par les Américains et par les sociétés américaines pour gérer ça?
Alors ça, ce sera pour le Block 5 qui va bientôt faire ses premiers vols dans l'armée de l'air. Enfin là, pour l'instant, d'ailleurs, il a fait son premier vol il n'y a pas très longtemps au CEM, donc une équipe de CEM qui est sur le site. Et bientôt, on va pouvoir… voler de nous-mêmes en tant que détachement Reaper avec du Block 5. Donc il y aura toujours pour l'instant du Block 1 et ce Block 1 sera toujours entretenu par des Américains de General Atomics. Le Block 1 est non exportable. Donc c'est un contrat qui a été passé et tant qu'on aura du Block 1, ça sera le cas. Maintenant, nos mécaniciens français vont pouvoir s'atteler au Block 5 et le mettre en œuvre de A à Z. Donc on retrouve enfin le format classique, j'ai envie de dire, d'un escadron d'avions de l'armée de l'air, à 100%. Simplement, l'avion est américain, mais la maintenance, au jour le jour, reste française avec les équipes de mécaniciens français. Et ça crée, on va dire, un groupe un peu plus homogène et qui correspond plus à ce que moi, en tout cas, j'ai connu dans mes précédents escales.
Au cours de votre parcours, est-ce que vous avez noté une évolution notable sur l'utilisation du drone de ce type d'aéronef dans les conflits Barkhane, etc.
Donc je pense que le drone apporte le complément qui manquait à la composante aérienne, c'est la persistance. Les avions, hein, la puissance aérienne a énormément d'avantages, mais c'est vrai que la chose qui pêchait jusque-là, c'était le fait de rester fugace et de ne pas être capable de rester sur plusieurs jours sur une même zone. Donc moi, en pilote de Mirage 1000D, je pouvais ravitailler, mais ravitailler ne me permettait pas de tenir 20 heures en vol. Aujourd'hui, avec le Reaper, on a cette permanence. On est capable de faire ce qu'on appelle des RIP, donc un avion qui va en remplacer un autre de manière un peu continue, pour avoir ce que les Américains appellent des orbites, qui permettent de tenir H24 sur une zone. Et ça, je pense que c'est la vraie révolution. C'est d'être capable de suivre des objectifs pendant plusieurs jours, si vraiment le besoin est avéré. Ce qui est sûr, c'est que le Reaper ne remplace pas les chasseurs. Le Reaper ne remplace pas les avions habités actuels. Il faut arriver à comprendre que c'est un complément, quelque chose qui va combler peut-être quelque chose qui manquait. Mais en aucun cas, il ne peut prétendre à révolutionner en fait la guerre aérienne. Encore une fois, il a des avantages, son hyper-connectivité aussi, puisque ça permet vraiment ce qu'on appelle l'échelon opératif, donc le commandement de théâtre, d'être au plus près des opérations. Là où avant, en avion de chasse, vous deviez utiliser une radio ou des liaisons de données, mais qui sont un peu compliquées sur des élongations comme celle de la BSS. Aujourd'hui, on est quasiment à un coup de fil de la plus haute autorité du théâtre, donc ce qui permet vraiment de raccourcir les boucles décisionnelles, donc c'est aussi un vrai avantage de notre avion aujourd'hui.
Ce serait impossible de voir dans un avenir plus ou moins lointain un conflit sans avion de chasse habité, ça serait possible ou pas?
Tout dépend de à quelle échéance. Honnêtement, si vous me donnez une liaison quantique qui permet à un pilote de chasse, sans parler de la liaison satellite, d'être dans un avion où il n'est pas physiquement, mais être à l'abri du brouillage et d'être dans n'importe quelle condition, être sûr d'être maître de son avion à distance, je vous dis pourquoi pas. Après tout, ça évite d'avoir à pressuriser l'avion, ça évite d'avoir des limitations en accélération. Le corps humain reste quand même, entre guillemets, fragile. Mais en l'état actuel des technologies, je ne pense personnellement pas que ça soit accessible d'ici les 20 ou 30 prochaines années. De part, encore une fois, nous sommes un vecteur complémentaire, mais aujourd'hui nous sommes sur un conflit asymétrique. Demain, le Reaper n'est pas équipé, il n'a pas la vocation à faire ce qu'on appelle de l'entrée en premier ou un conflit haut du spectre. Donc encore une fois, la BSS est un conflit particulier où le Reaper excelle parce qu'il amène des capacités qui sont extrêmement demandées. Mais en revanche, ce sera peut-être le maillon faible sur un autre type d'opération. Donc il faut faire très attention dans notre manière d'approcher un conflit particulier. Le conflit d'aujourd'hui n'est pas le conflit de demain. Et il faut toujours avoir à l'esprit d'être capable de faire face à différents types de menaces. Et je ne vois pas comment aujourd'hui on pourrait se passer d'avions de chasse habités ou d'autres avions habités comme le sont les ALSR juste à côté du coup.
Qu'on verra dans un prochain épisode du podcast. Sur la partie de nouveauté de ce détachement, il y a la partie armement. Oui. Depuis peu, le drone Reaper est équipé d'ogives. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, tout à fait. Donc depuis maintenant un petit peu plus d'un an, nos Block 1 sont équipés de GBU-12. Alors là encore, ça peut paraître comme une révolution, mais ça ne l'est pas. Nos équipages étaient déjà formés à toutes les missions que je vous ai énumérées tout à l'heure avant l'armement. Et en l'occurrence, même si on ne portait pas les bombes, on les guidait. Donc finalement, toutes les missions qui ont été faites entre 2014 et l'arrivée de l'armement, donc décembre 2019, incluaient déjà des opérations cinétiques. Vous détectiez des ennemis, on coordonnait l'arrivée de chasseurs, forcément, parce qu'on n'avait pas de bombes, Et les chasseurs faisaient ce qu'on appelait une force run attack, possiblement, hein, c'est un des cas possibles parmi tant d'autres, et pour être plus rapide, donc le chasseur n'a pas le temps de prendre ce qu'on appelle le visuel de la cible, mais vu que nous l'avons et que nous sommes capables de guider les bombes, on avait ces procédures qui étaient possibles de coordonner en fait le tir d'une bombe d'un chasseur guidé par un Reaper. Donc finalement, les équipages Reaper prenaient déjà la responsabilité de l'engagement du feu, même s'il n'y avait pas l'action d'appuyer sur la détente. Toutes les actions de coordination, d'autorisation de feu, vérifier que les règles d'engagement étaient cohérentes avec les obligations du théâtre, vérifier que les autorités impliquées étaient bien impliquées et nous donnaient bien l'autorisation d'engagement. Toute cette chaîne qui amène au résultat de une GBU-12 tombe à un endroit donné était déjà mise en place. Simplement, ce petit changement aujourd'hui, c'est que maintenant, nous pouvons tirer nous-mêmes les bombes, ce qui permet bien évidemment beaucoup plus de réactivité dans certains cas. Et encore une fois, c'est une carte en plus à la main de l'échelon opératif, à la main du commandement de théâtre. Avant, il avait un jeu à 6 ou 7 cartes, et bien maintenant, il y en a une huitième qui est la possibilité de faire tirer directement un Reaper.
C'est une carte qui est régulièrement utilisée ou pas ?
C'est une carte qui est utilisée, j'ai envie de dire, comme la chasse, comme les hélicoptères. C'est une carte en plus. Elle n'est pas toujours. Il faut bien avoir conscience qu'elle est. Si vous utilisez cette carte, on n'a que deux bombes, vous ne l'utilisez pas après. Donc, et on reste un avion de renseignement. Donc cette carte, j'ai envie de dire, c'est un peu l'atout. Si vous n'avez pas d'autres possibilités, bah, vous pouvez l'utiliser. Mais bien évidemment, notre mission première, ça reste quand même le renseignement. Donc ça peut être une solution de dernier recours quand il n'y a pas d'autres solutions cinétiques à porter. Et bien évidemment. Ça reste un atout, ça reste une solution qui n'est pas quelque chose de qui arrive sur un quelque chose de journalier, bien évidemment. Le conflit pourrait être amené à évoluer, mais en tout cas, tel que l'on vit aujourd'hui, on fait du renseignement, c'est notre mission principale.
D'accord. Pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce métier, dans le métier de pilote d'aéronef
comme Bien sûr, je leur dirais que c'est un métier exaltant, c'est un métier exigeant, il faut être motivé. Si d'aventure certains avaient eu potentiellement des déceptions pour des raisons médicales par exemple, pas pouvoir être pilote de chasse parce que la sélection est drastique, encore une fois le corps humain est fragile et c'est vrai que dans un avion de chasse il est soumis à rude épreuve, notamment les accélérations, il faut pas hésiter à tenter l'aventure. En tout cas, moi, en tant qu'ancien pilote de Mirage, je m'épanouis. Et je vois des jeunes qui s'épanouissent aussi. On fait un beau métier. Et vraiment, je pense que tout le monde ne sait pas exactement comment fonctionnent les Reapers français. Comme vous l'avez dit, certains films mettent peut-être en avant les lacunes du système américain. Et il faudrait pas que ça rebute certains, essayer de comprendre un peu comment nous, on fonctionne. Donc renseignez-vous, allez dans vos CIRFA et voilà, on sera ravis d'accueillir des jeunes motivés pour nous accompagner dans nos missions.
Super, ben merci beaucoup et bonne mission du coup.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les autres épisodes exclusifs que nous avons réalisés pour vous au Sahel directement dans votre espace premium sur defense-zone.com en cliquant sur l'onglet Premium. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast.